leur chant. Bonjour à toutes et à tous, hors champ aujourd'hui avec le cinéaste qui vient d'obtenir cette année le prix Jean Vigo, Albert Serra. Albert Serra, vous êtes cinéaste, auteur de plusieurs films. Honor de la Cavalleria, il y avait Le Chant des Oiseaux. L'avant-dernier film s'intitulait Histoire de ma mort, on y reviendra tout à l'heure. Et le dernier s'intitule La mort de Louis XIV. On va revenir sur toute votre cinématographie, mais je voulais d'abord savoir si vous aviez vécu une enfance de cinéphile, si vous avez été au cinéma quand vous étiez jeune.
Ma famille s'est pas cultivée. Mon père n'a jamais lu un seul livre dans toute sa vie, et ma mère le même.
Qu'est-ce qu'ils font, vos parents?
Ils font des petites entreprises avec 3-4 travailleurs. Ils achètent des nourritures et de la vente. Mais ils ne sont pas une famille cultivée. Ils ne comprenaient absolument rien de mes films.
Donc, vous avez vécu toute votre enfance et votre adolescence en Catalogne?
Oui.
L'identité catalane continue à exister fortement pour vous? Est-ce que ça constitue...
Oui, pour moi,
On sait que c'est une langue, on sait que c'est une culture, on sait que c'est une civilisation. Est-ce que c'est tout ça pour vous qui êtes si jeune, Albert Serra?
C'est vrai parce que j'habite à la campagne et peut-être que là, je suis né à Vagnoles, au nord, à côté de la frontière avec la France. Je suis né à côté de Dalí, où était né Dalí. Je vais en vacances souvent à Cadaqués, que c'est où il était en vacances, à côté de Figueras. Et bon, là, il y a certaines particularités qui continuent. Mais bon, ils sont en train d'être perdus avec cette globalisation, non, d'aujourd'hui. Ils sont en train d'être perdus. Mais bon, est-ce que tu crois qu'il existe un lien qui est pur dans ce sens, comme dire, artistique, dans ce sens culturel? Aujourd'hui, non, toute la culture, c'est devenu un spectacle, et comme ça, le tourisme, c'est la conséquence de cet spectacle, non, des gens qui vont voir de certaines mémoires, non, là et d'allí, dans d'autres lieux, il y a des autres mémoires, mais c'est le spectacle d'aller à regarder quelque chose, c'est pas de le vivre. Mais si vous savez quelque lieu qui est authentique et qui maintenant mérite de vivre là, pas d'aller à regarder quelque chose du passé, bon, j'irai, mais je ne les connais pas. Je crois que ce n'est pas seulement un problème de Cadaqués, c'est un problème absolument global.
Oui, mais justement, c'est peut-être contre ce système mercantile que vous travaillez, puisqu'on peut dire, Albert Serra, que vous avez inventé un nouveau type de cinéma. Vous êtes un cinéaste radical, un cinéaste de la pureté. On reviendra sur les thèmes que vous choisissez, sur votre manière d'empoigner la caméra pour pouvoir nous faire partager les passions les plus élémentaires, y compris les plus bibliques, les plus essentielles. Vous l'avez appris, le cinéma, ou pas?
Non, j'étudie à l'université de la littérature espagnole et de la littérature comparée, mais je ne suis jamais allé étudier cinéma, je ne suis jamais allé à l'école et je n'ai jamais vu un tournage d'un autre réalisateur qui n'était pas moi.
Non.
Oui, bien sûr. Je suis très cinéphile, j'ai vu beaucoup de films, mais jamais comme utiliser la caméra ou comme, je ne sais pas. Peut-être que comme les acteurs sont des acteurs non professionnels, je suis inventé un peu un propre système de direction d'acteurs. Ça, je crois que c'est plus original dans le monde cinéma. Comme je n'étais pas professionnel, les acteurs n'étaient pas professionnels ou n'avaient jamais fait un film, no? Je crois que c'est très cohérent parce qu'on a vraiment, vieillir ensemble, no? C'est cette originalité, je crois, que, ou cette authenticité qu'on peut trouver un peu dans les images, je crois, ou c'est mon espoir au moins. Après, peut-être que c'est le deuxième, c'est Les Chants des Oiseaux, c'est plus, no? C'est un peu plus sophistiqué, on a appris beaucoup de choses, et pas sophistiqué, peut-être un peu plus calculé, mais je crois que seulement un peu plus. On garde l'essence
sauvage. De la pureté.
Oui, primitif aussi, no? C'est certain, juste primitif.
Pancho, ¿qué es lo que fue? Ya estaba cuarto.
Sí. Lo veis que fíjese, bueno. Estaba cuarto, ¿no?
Estaba cuarto.
No estaba mal.
Le chant des oiseaux est tourné en noir et blanc, mais est tourné en couleur en noir et blanc. Donc on reviendra aussi là-dessus, d'où l'intensité justement de ces différentes tonalités de lumière et de déclinaison de lumière, y compris dans le noir le plus noir. Et on a l'impression que peut-être vous avez pas mal regardé les films de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, non?
Oui, mais c'est un peu différent, c'est un peu paradoxal, parce que j'ai, pendant les tournages, par exemple, j'ai jamais regardé la caméra. J'ai interdit le, comme dire, le combo, le moniteur, parce que j'aime pas que la distraction de le moniteur là, et j'aime pas cette, non, peut couper la magie pour moi de ne découvrir pas les images qu'à les montages, non? Et si on les voit dans l'écran déjà, on perd quelques mystères, je crois.
Mais alors, qui tenait la caméra pendant
oui,
que vous
tourniez? Oui, le directeur de la photographie, qui dans ce cas, par exemple, était un ami à moi, qui n'avait jamais touché en caméra dans sa vie. En caméra de photo, oui, mais il était le directeur artistique de l'autre film, Honor de Cavalleria. Mais bon, pour suivre un peu cette tradition que j'ai parlé de les acteurs non professionnels, les réalisateurs non professionnels, on a décidé de convertir, de faire la conversion d'un directeur artistique en directeur de la photographie. Et avec l'internet, il a pris tout rapidement. On discute avant de començar a tornar, on fa beaucoup de tests, avec beaucoup de càmeres, kinescopage, beaucoup de lumière, reglatge de la càmera, etc. Mais pendant les tournages, bon, j'ai fait confiance à les bons goûts, surtout. Pour moi, c'est en question de bon goût, no? Les cadrages, c'est pas...
C'est quoi le bon goût pour vous, Albert Serra?
Bon goût de composition, de je sais pas. C'est un peu difficile de dire, mais
si c'est j'ai classique, fait... c'est
non, mais ah, c'est réinventer. une intuition pour
bon, une intuition certaine... de quoi? De la beauté du monde.
Oui, bien sûr. Le cinéma, c'est ça, non? C'est de tourner la beauté qui fait partie de la dimension visuelle de la réalité, non?
Oui.
Et c'est seulement ça. C'est la dimension visuelle et un peu avec la dimension psychologique, non? On peut dire que la littérature, c'est le portrait de la dimension psychologique de la réalité. La littérature, la peinture, c'est le portrait de la dimension de la beauté, de la dimension visuelle de la réalité. Et peut-être le cinéma peut partager un peu de les... No? C'est juste la moitié. Peut partager un peu de cette beauté psychologique, mais en même temps, no? Cette beauté visuelle, no? Qu'il y a dans la réalité. Avec un certain bon goût, je crois que ça suffit pour faire un bon film.
Tu ara un moment mires al cel i li dius alguna cosa i veuràs que t'escoltarà. Només demana-li força. Diu del cel, el tenim a dalt. Sí, Sancho, sí. Amb així tindrem força. No és que et vas trobant millor, que trobes més bé, però ara mira't a dalt al cel un moment i torna a descansar. Mira't-ho.
Vous êtes un cinéaste totalement innovateur, qui ne fait pas du cinéma classique. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de narration, il n'y a pratiquement pas de dialogue. Et en même temps, on peut peut-être dire que le cinéma, c'est pour vous aussi peut-être le dévoilement de ce qui n'est pas visible et que vous, vous voulez rendre visible pour nous, spectateurs.
Oui, on peut dire ça, oui. Surtout par rapport, non, peut-être à les mystères qu'il y a dans la réalité, d'un certain lyrisme, non? Qu'on n'a pas le temps de les voir, non? Parce que bon, on n'a pas la patience de rester là. Et avec le cinéma, on peut garder seulement, non? Cette part de la réalité plus mystérieuse, plus intense, non? Qu'il y a plus d'intensité, et garder en même temps le plus beau, non? La part de la réalité le plus beau, elle peut montrer et éviter tous les autres, non? La vulgarité ou le prosaïsme de l'autre part de la réalité. C'est pas de faire visible quelque chose qui n'existe pas. Je crois que ça existe, mais que bon, et mélanger avec des autres choses qu'on aime pas. Et dans les films, seulement, on rejette ces choses qu'on n'aime pas et on garde seulement les choses de la réalité qu'on aime.
D'autre part, on ne peut s'empêcher de penser, vous évoquiez tout à l'heure la figure tutélaire de Dali, qui était proche de vous géographiquement, mais aussi intellectuellement et artistiquement. On ne peut s'empêcher de penser aussi au premier film de Luis Buñuel. Est-ce que vous acceptez cette comparaison?
Oui, c'est un grand film. Je ne ferai jamais un film si bon comme ça, mais... oui, c'est une filiation que j'aime beaucoup. surtout, et j'aime beaucoup parce que le cinéma, c'est l'art où la liaison avec la vie, c'est le plus direct. Dans la littérature, par exemple, tout vient à travers de la tête de l'écrivain, non? Et tout doit passer pour la tête de l'écrivain. Mais le cinéma, dans le cinéma, la vie, cette effervescence de la vie qu'il y a dans les tournages, se peut communiquer directement avec l'art, avec le résultat final, non? Et c'est pour ça que je disais que, bon, j'ai fait une revendication artistique de Buñuel et Dalí, mais en même temps, de les personnages, non? De les personnages Dalí, que c'est très important pour moi, parce que cette côté vital, cette confusion, on peut dire, non? André Breton a dit de Dalí, beaucoup de confusion pour rester si pur. Et cette confusion vitale, non, qu'il y a dans les personnages Dalí, je l'aime beaucoup, et je crois que dans le monde cinéma, il y a, non, quelques choses, il reste quelques petites choses de cette proximité, non, avec l'intensité vitale, non.
C'est-à-dire que la confusion mental, le désordre mental sont pour vous des éléments constructifs pour pouvoir faire du cinéma.
Oui, on peut, oui. Pas le désordre mental, mon désordre mental.
Pas la folie, mais oui, plutôt l'égarement des sens, ne plus savoir très bien où on est.
Oui,
à
surtout
quel niveau
avec, dans les tournages avec l'ensemble des amis, une qui est en plus stupide, l'autre qui est le plus intelligent. Non, il y a certaines incohérences là, non? Certaines, comment dire, non? J'aime de mélanger. Comme dans les films que j'aime de mélanger, par exemple, le dernier, non? Cet côté sacré, que c'est classique, que c'est normal, il y a des scènes très longues, très classiques, au niveau de la composition, au niveau de l'esprit, avec un sentiment de religiosité sérieux, orthodoxe, on peut dire, mais en même temps mélanger, non? Avec non? Un sens comique, un sens un peu absurde, un sens un peu, comment dire, non, ridicule même, non? Parce qu'on parle de trois romans, trois pionniers, non? Qui sont les premiers croyants de l'histoire du christianisme. J'aime beaucoup ce mélange, non? Et dans les tournages aussi, non? De mélanger, par exemple, moi, non? Que je suis très cinéphile, ou des autres personnages qui sont très cinéphiles, avec des acteurs, comme qui vont à jouer le rôle de Don Quichotte, mais qui est complètement stupide. Bon, pas stupide, pour nous comprendre, qui n'a jamais, ou presque jamais, écouté rien de Don Quichotte, qui ne sait jamais. L'acteur qui joue le rôle de Don Quichotte.
L'innocence, c'est cette figure de l'innocent qui vous intéresse beaucoup. L'innocent, c'est celui qui, par définition, pour les autres, ne sait rien. Oui. Mais en fait, on sait beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses sur le monde qui sont essentielles, mais personne ne l'écoute.
Oui, c'est ça, non? Et je crois qu'on peut trouver un peu ça, parce que le film est simple, non?
Je tenais bien d'entendre. Pour molto forza. Crec que conseguirem, Sancho, què creus tu? Que sí. Pour molto forza conseguirem, Sancho.
Je crois qu'il y a quand même un chemin artistique entre Honneur des Cavalleria et Le Chant des Oiseaux. Alors partons peut-être du Honneur des Cavalleria. D'abord, il fallait être gonflé. Vous deviez avoir moins de 30 ans à l'époque pour adapter librement le chef-d'œuvre sacré, intouchable, indomptable de la littérature de votre pays et essayer de le transcrire au cinéma. Comment vous est venue cette idée ?
Un peu par hasard, cet hasard de la vie que j'avais parlé, non?
Vous le connaissiez par cœur, j'imagine, ce texte.
Oui, bien sûr.
Comme
non,
tous
par
les
cœur,
Espagnols.
Non, j'ai étudié la littérature et je l'étudie très bien. Mais je n'avais pas un amour. Oui, je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas un rêve, non, que j'ai depuis mon enfance. C'est bon. Mais pour ce, un peu, le type qui jouait le Quichotte, je le connaissais, il était professeur de tennis. Dans le tennis, oui, dans le tennis où j'y allais. Mais avec les amis, il était un peu fou, mais avec les amis, on disait souvent, il paraît Don Quichotte, non, physiquement. Et bon,
parce qu'il était grand, parce qu'il était maigre,
grand,
parce qu'il
maigre,
était ascétique.
Non, soleil, c'est
les cheveux blancs,
un peu, non, c'est un peu ce délire, non, qu'il y avait dans son visage. C'était pour se rigoler. Après, un jour, avec un ami, nous étions dans un bar, il y avait Sancho à la bar, en train de...
Enfin, il s'appelait pas encore, il savait pas encore qu'il s'appellerait Sancho Panza.
Non, jamais. Non, il était de mon petit village, je le connaissais de l'avoir vu pour la rue, mais je le connaissais pas personnellement. Non, il était là en train de manger, très concentré, de manger des calamars. non, très concentré, tout seul, tout ça. Et bon, mon ami, pour se rigoler, il dit, oh, peut-être qu'il parlait sans chopin, non.
Mais... Parce qu'il était rond, parce
oui,
qu'il
était
avait
rond,
une
tranquille,
bonne
un peu simple, non. C'est le visage de l'homme simple, seulement concentré dans, non, dans son nourriture, sans penser à rien d'autre. Prenez le portrait de l'homme simple, pas stupide, que c'est sans chopin, ça, dans le livre.
Et tu as dit l'homme ça? Simple, ça veut dire l'homme pur aussi.
Oui, oui, oui. C'est vrai. Peut-être, c'était ce jour qu'on a dit, peut-être qu'on peut faire un film avec sur Don Quichotte et Sancho, avec ce type, avec non, Sancho, et avec le professeur de tennis. Parce qu'à un niveau visuel, non, les visages, les corps, surtout les corps, non, la combinaison des deux corps, on a eu l'intuition que pouvait marcher très bien dans l'écran.
Que t'agradava de petit? Tout això de... L'aventura i la cavalleria.
Bueno, no ho havia fet mai.
No has tingut que matar a ningú encara? O sí, has matat algú?
Jo no. Però el Quixot sí.
Ah, sí?
Comment vous avez imaginé Histoire de ma mort, qui d'ailleurs a eu le Grand Prix au Festival de Locarno il y a maintenant 3 ans?
Bon, c'était un film assez chaotique, non? Il y avait ces deux côtés du rationalisme, des lumières, non? Des siècles des lumières, de Casanova, du cosmopolite, etc. Et en face, le côté plus romantique, obscur, ésotérique, paysan, etc. Et pour moi, c'était ça, de recréer ces deux imaginaires avec des images, simplement. Et d'une façon très très libre, non? Il avait aussi la puissance de Casanova, la vitesse pour tout apprendre, tout comprendre, tout, non? C'est vraiment cette passion pour non, vivre la vie, pour manger la vie un peu, non? Mélanger avec ça, non? Cette espèce de chute en face des forces qui sont un peu plus fortes, comme c'est le cas dans la mort de Louis XIV, que c'est la force de la mort. Qui est beaucoup plus fort que tout notre désir, non?
Mais justement, quand on voit le dernier film, La mort de Louis XIV, on se dit qu'il a été amené par Histoire de ma mort.
Peut-être, il y a aussi le petit sujet du médecin, qu'il y a les deux médecins, l'un qui est plutôt un charlatan, un peu plus ésotérique, et les autres qui ont des études théoriquement à l'époque un peu plus scientifiques de la faculté de Paris, etc. Il y a quelque chose de là aussi dans les films.
Sauf que Histoire de ma mort était très évanescent, diffus,
atmosphérique,
complexe,
non,
atmosphérique.
Et si c'est plus concentré.
Le scénario partait dans des bifurcations nombreuses. Alors
avec des dialogues un peu mystérieux, un peu comme ça.
Il y avait une
ça,
sorte non, de vagabondage poético-philosophique qu'il y a aussi dans celui-là, mais où dans La mort de Louis XIV, manifestement, l'unité de lieu, l'unité de temps... font que les choses seraient plus cadrées. Oui. Est-ce que, Albert Serra, est-ce à dire que vous vous assagissez? J'espère que non.
Non, mais c'est le concept du film. Parce qu'à l'origine, ça devait être un performance en commande à Beaubourg, mais à la fin, ça a été annulé.
Alors, expliquez la jeunesse, parce qu'on a oublié de dire aux auditeurs que vous étiez aussi... finalement performateur, plasticien, que vous aviez fait à Munich.
J'avais travaillé des films pour le monde de l'art contemporain, notamment pour la Documenta de Casse, pour la Biennale de Venise aussi, la dernière Biennale de Venise.
Vous aviez mis en scène donc Goethe.
Oui, Goethe, Hitler, Fassbinder. Et après, dans les derniers, c'était un film de 13 heures, un peu complexe aussi, sur des sujets de mines, prostitution, la manipulation et l'exploitation du corps. Bon, c'était des films un peu plus, comme dire, conceptuels et complexes. Maintenant, on est encore dans les domaines de la fiction pure, normale, du cinéma. Et c'est vrai qu'il y a non, un huis clos, c'est un huis clos, les films, unité d'espace, comme vous avez dit, unité de temps, unité d'action. Et il y a les caractéristiques, je garde, non, tous les caractéristiques un peu non, d'ironie, soit d'artifice mélangé avec l'organique, non, que c'est très caractéristique de mon style. Peut-être d'une façon un peu plus précise, d'une façon un peu plus, je ne dirais pas domestiquée, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une homogénéité de base qui est respectée pendant tout le film.
Alors le film est d'une beauté stupéfiante. Vos cadres, comme d'habitude, sont d'une intensité dramaturgique uniquement par ce qu'ils déploient comme la couleur, comme si la couleur, et notamment le rouge, était une matière organique. Les rideaux sont rouges, le lit est rouge, évidemment le sang qui va apparaître progressivement et par définition rouge. Le rouge est la couleur de ce film. Pourquoi ?
Je ne sais pas. C'était un peu inspiré sur des images de réel de la chambre de Louis XIV. Un peu, après, on a exagéré un peu les côtés rouges, plastiques. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose de symbolique, d'une façon un peu inconsciente. Non? J'aimais les couleurs dans l'image, c'était simple. Mais c'est vrai que l'important pour moi, c'était plutôt non, l'interaction de l'acteur avec toutes ces couleurs rouges, qu'il soit vraiment organique, qu'il soit pas simplement un acteur qui se pose là, qui est allongé sur le lit, habillé en costume avec des décors d'époque, sinon que vraiment l'acteur puisse avoir une relation, et surtout avec la maladie, une relation vraiment physique avec ce petit espace que c'est le lit où il va passer, où il va vivre cette agonie. Et qui soit vraiment, je sais pas, une espèce de métamorphose, avec les petits objets qu'il a à son côté, que c'est surtout les lits.
Alors, après, on pense au film de Rossellini aussi.
Oui, mais là, c'est plus narratif, c'est plutôt narratif, je sais pas.
Mais là, c'est aussi narratif, mais il n'y a rien à raconter, mais vous en faites une histoire,
c'est
Albert
ça.
Serra.
C'est ça.
C'est-à-dire, mais je pense que tout est vrai dans ce que vous racontez. C'est les dernières semaines de l'agonie de Louis XIV.
Du point de vue historique, c'est assez respectueux avec ce qui s'est passé réellement, même des moments drôles, des moments un peu absurdes liés à la maladie, que c'était la médecine de l'époque, tout est vrai. Après, ok, il y a des petites licences poétiques, on peut dire, je suis intéressé à des autres choses, pas strictement à donner la vérité historique. Et, je sais pas, j'essaie aussi de mettre la fantaisie. C'est difficile parce que dans les huis clos, dans l'unité d'espace, mettre de la fantaisie sans tomber dans les côtés, je sais pas, facile ou excessivement grotesque, tout ça, mettre les points justes d'ironie, c'est difficile. Heureusement, il y avait Jean-Pierre.
Qui, alors, lui, Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Léaud, qui incarne donc Louis XIV.
Oui.
Et vous l'avez choisi et pourquoi vous avez pensé à lui? Lui qui n'a pas joué de premier rôle depuis longtemps, je crois, depuis le film de Bonello, il y a
pour
le
des
pornographe
raisons,
il y a une dizaine d'années. Hein.
Oui, c'était pour des raisons un peu d'hasard et d'amitié avec des producteurs, etc., qui m'ont présenté. J'avais beaucoup de respect et d'amour depuis le premier moment pour son intégrité. Non, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait, ce qui n'est pas très habituel avec les acteurs, un seul film pour l'argent, un seul film qui n'est pas un film avec des réalisateurs, on peut dire, il aime de dire intellectuel, mais on s'entend, non, on comprend que c'est des films vraiment d'auteur avec des ambitions artistiques sérieuses, etc. Ça m'a beaucoup ému. Et ça m'a, avec lui, c'était très facile, très simple. Et même si c'était devait être une performance, etc., il a 4 ans que ça a été annulé. Pour
donc ça devait être une performance au départ au Centre Pompidou, où vous vouliez le mettre dans un lit qui allait tomber, c'est
exact.
Ça, si j'ai bien compris.
Et qui devait aussi faire la même chose, c'était, ça devait être l'idée de la mort en direct, non? Ça a été annulé, mais bon, on a repris l'idée d'une façon un peu différente. Après, mais toujours avec, peut-être on ne parle pas de performance maintenant, mais j'aime d'utiliser une expression qu'a utilisée Jean Doucet pour parler de mon cinéma, que c'est dit, c'est pas la dramaturgie de l'action, c'est la dramaturgie de la présence. Non? Quand il parlait de mon cinéma. C'est-à-dire que tout sort, tout évolue à partir de ça, de cette présence centrale de l'acteur qui crée des choses, même sans action, comme vous avez dit un peu avec l'histoire de ma mort, avec d'une façon un peu atmosphérique, vaporeuse, etc., mais qui sort tout de l'acteur, non? Et c'est pas un performant strictement, mais il y a une dramaturgie basée sur l'acteur et sur la présence. Moi, je suis très fier que ça, dans les films existe, aussi, même si c'était pas mon intention au début, au départ, c'était évidemment, c'est inévitable avec lui, qu'il y avait ce côté, cette petite transition entre la personne, l'acteur, le personnage, non? Et garder ça un peu visible, non? Ou un peu, je sais pas, pour moi, c'était enrichir un peu le film, même si j'ai dit que c'était pas la lecture que je voulais non, donner au début, et c'était pas mon intention, mais je savais que ça serait inévitable, en plus, dans la façon que je travaille, je fais jamais des essais avec les acteurs, le premier jour qu'on arrive, c'est le premier jour que je les vois habillés, qu'on tourne, et qu'on, ils sont dans les personnages, alors c'est normal qu'avec cette vitesse, avec cette espèce de, non, d'improvisation, entre guillemets, la personne, les personnages, l'acteur, non, parfois ils sont malins, non, mêlés, pardon. Alors il y a quelque chose
et malin aussi, d'ailleurs voilà. Jean-Pierre Léaud est très malin.
Oui, oui, bien sûr.
Il joue à simuler sa propre mort, mais c'est vrai que nous spectateurs, quand on voit votre film, Albert Serra, on se dit, ouh là là, mais j'espère qu'il va pas mourir après ce film.
Je sais pas.
Il y a un jeu avec la mort.
Bien sûr, non, c'était l'idée, cette idée que je vous dis, une organique, et surtout que la mort ne soit pas vue comme d'une façon dramaturgique. Normalement, la mort, c'est quelque chose, non, dans le cinéma, c'est un instant, je sais pas, solemne, non, où quelqu'un dit quelque chose, non, c'est vraiment... Là, non, non, il y a l'agonie, et la mort, c'est vraiment, je sais pas, une espèce de confusion, comme il est parfois dans la tête de tout le monde qui va mourir, je crois, parce que personne n'est mourir, alors je crois que tout le monde qui va mourir a de croire jusqu'à le dernier moment qu'il ne va pas le faire. Mais inévitablement, ça arrive, non? Alors, toute cette confusion mentale, toute cette durée, non? Que dans les films, heureusement, ils m'ont dit, des gens qui l'ont vu, que c'est pas si dur que les précédents au niveau du rythme et du temps. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le spectateur. Mais c'est vrai qu'il y a un travail dans la durée de l'agonie, et surtout ça, de voir la mort comme, je sais pas, même pas en conséquence, de voir la mort comme quelque chose qui fait partie de la vie et qu'il est là et simplement il arrive et c'est fini.
Alors votre film, Albert Serra, est d'une intensité artistique, est un acte esthétique d'une immense beauté, mais il pose aussi des questions philosophiques, comme souvent d'ailleurs dans vos films, parce que ce corps du roi qu'on voit tout le temps allongé dans ce lit, dans cette chambre où il est reclus parce qu'il ne peut plus marcher, il est devenu une sorte de masse informe, entouré évidemment par ses courtisans, par ses valets, par ses princes, etc. Il y a le corps du roi, qui est un corps organique et qui se meurt. Et puis, il y a la royauté qui, par définition, est immortelle. Donc, il y a contradiction entre la mortalité de ce roi qui va finalement mourir, et puis cette royauté qui va perdurer. Oui. C'est ça aussi que vous vouliez figurer.
Oui, on dit d'une autre façon, peut-être c'est la infinitude non, du pouvoir politique dans ce, non, qui est toujours transitoire, avec la finitude non, inappelable du corps, non, de la mort physique. Et ça, moi, jamais. Non, c'est une petite vengeance que tous les mortels qui sont ils n'ont pas, non, la grande chance d'être dans le pouvoir absolu, non, contre les gens qui l'ont, non, de savoir qu'ils sont aussi faibles, qu'ils sont aussi finis, je ne sais pas comment dire en français,
finis,
qu'ils vont finir, qu'ils sont dans la finitude de son corps. Non. Et ce contraste était bien lié un peu à ce côté, que c'est encore plus dur dans ces cas, c'est à côté de la représentation, parce que non, toute la vie de Louis XIV, dans cette époque-là, non, c'était fait dans la représentation, dans la visibilité totale, non, un peu comme aujourd'hui. Et là, comme gérer ça, non, comme gérer le sujet de la mort dans la représentation, mais aussi dans l'intimité, c'est quelque chose d'intéressant. Non, il y a toujours un petit, comment dire, non, un petit dialectique là, qui est un peu malin. Moi, j'aimais beaucoup ça, parce que avec Jean-Pierre aussi, comme il était très sensible à tous ces sujets, parce que bon, c'était une obsession de lui depuis qu'on a parlé la première fois de jouer ce rôle lié un peu à son âge, etc. Non, je savais que ça va être intéressant dans les films. Et effectivement, je crois qu'il y a quelque chose.
Ben, merci beaucoup, Albert Serra, pour tout ce que vous faites et pour tous ces films. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bonne chance.
Merci.
Merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.